Bonjour, ravi de vous retrouver. Comme à la fin de chaque mois de décembre et au début de janvier, nous allons vous proposer une évocation des grands événements de l'année, événements que nous vous relatons chaque samedi grâce au reportage de la rédaction.
Une année d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Édition spéciale, donc premier volet aujourd'hui, second volet la semaine prochaine. Et dans ces deux rendez-vous, nous serons en compagnie de Yann Mince, journaliste spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Il nous propose un hors-série passionnant qui s'intitule « Quel monde en 2020 ?» Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Journaliste et ami de l'émission, comme les plus fidèles le savent, ça fait des années que nous travaillons ensemble pour notre plus grand plaisir
et, pour le mien,
et celui
pour le
des auditeurs également. On va évidemment, comme je viens de le dire Yann, passer en revue les grands événements de l'actualité de 2019, mais il faut dire un mot quand même sur l'actualité de ces derniers jours, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses importantes. Des nouvelles attaques terroristes au Burkina Faso, la mort du général Gaïd Salal en Algérie, qui est un événement important pour les Algériens, et aussi l'annonce de la fin du franc CFA. Ça vous inspire un commentaire ?
L'annonce de la fin du franc CFA, oui, le nom
avec
va disparaître.
Les guillemets qui s'imposent.
Le nom va disparaître, effectivement. Je ne suis pas sûr que tout le dispositif va disparaître, si j'ai bien compris l'obligation de déposer une partie des réserves des banques centrales africaines en France, la banque centrale française va disparaître, mais l'arrimage à l'euro va rester. Et la garantie de la France en cas de problème monétaire va rester aussi, si j'ai bien compris le dispositif. Je me demande si parfois nos amis africains ne se font pas un peu trop d'illusions sur ce que ça peut vouloir dire de quitter le franc CFA. C'est très bien de vouloir avoir une monnaie commune, voire une monnaie unique à terme, mais ça pose des problèmes compliqués. On l'a vu avec l'euro, il faut fixer le cours de cette monnaie. Or, dans une zone monétaire, tous les pays n'ont pas forcément les mêmes intérêts. On a vu les intérêts divergents en Europe, par exemple, entre l'Allemagne et la Grèce. On le verra peut-être demain entre la Côte d'Ivoire et le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est pas si simple. Chaque pays a des intérêts économiques différents et fixer le taux d'une monnaie, ça veut dire se mettre d'accord sur un taux qui convient à peu près à tout le monde. Ou alors ce sont les plus puissants qui imposent leur volonté aux autres. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément très différent de la zone CFA.
Ce qui me frappe, en tout cas Yann, c'est le grand scepticisme de nos auditeurs. Plusieurs dizaines d'entre eux nous ont spontanément envoyé des messages en disant qu'en gros, ils n'y croyaient pas.
Alors évidemment, ça peut sembler une demi-mesure, puisqu'effectivement l'arrimage à l'euro, si j'ai bien compris, va demeurer. Effectivement, c'est ça.
Il y en a un auditeur qui nous écrit, je crois que c'est Yannick qui nous écoute en Guinée, qui dit « ça reste mécaniquement la même monnaie ».
Effectivement, si l'arrimage à l'euro, ça veut dire que la zone CFA, enfin l'ex-zone CFA, ne pourra pas faire de dévaluation. Mais attention, la dévaluation, c'est très bien, on a l'impression que c'est très bien, parce que ça favorise les exportations, mais ça renchérit aussi les importations du même coup. Or, un certain nombre de pays africains sont très dépendants des importations, y compris dans le domaine alimentaire. Si demain, parce qu'il y a une dévaluation, le prix du riz dans telle ou telle capitale africaine, dans telle ville africaine ou campagne africaine fait un bond, je ne suis pas sûr que les Africains vont trouver ça aussi avantageux que ce qu'ils espéraient.
Ah, je cite aussi deux auditeurs qui sont pour cette décision. C'est le cas d'Omar Eladji qui nous écoute lui aussi en Guinée, ou Malik qui lui nous écoute à Ouaga, qui salue le courage d'Emmanuel Macron par exemple.
Oui. Faut pas exagérer non plus.
Alassane Ouattara aussi.
Faut pas exagérer non plus, puisqu'effectivement, le dispositif est un dispositif en même temps. Si je puis dire, en même temps, il y a l'obligation de réserve qui disparaît, mais en même temps, l'arrimage à l'euro. Donc, c'est pas non plus hyper courageux, mais bon, c'est bien d'une façon ou d'une autre, évidemment, que les Africains prennent leur souveraineté monétaire. Il faut juste leur dire que la souveraineté monétaire va aussi avec la responsabilité et les ennuis éventuellement qui suivent.
Yann, on va commencer donc notre revue de l'actualité de 2019, cette semaine et la semaine prochaine, comme chaque année. Et vous nous proposez, comme chaque année aussi, un hors-série, c'est votre bébé d'Alternatives Économiques, qui s'intitule « Quel monde en 2020 ?». C'est une question qui intéresse l'année prochaine, mais c'est aussi un bilan de l'année écoulée.
Dans une certaine mesure, oui. C'est un numéro que nous faisons tous les ans en partenariat avec le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, dans lequel il y a à la fois des articles qui parlent de pays précis, et puis d'articles qui parlent de tendance un peu plus générale, transversale, comme par exemple une interview sur la question des sanctions internationales, leur efficacité, comme la question du protectionnisme. On l'a vu revenir sur la scène, notamment avec Donald Trump. Et puis des sujets un peu plus de société, je dirais, mais très important pour moi, et notamment qui touche l'Afrique, est la question des fake news, de toutes ces informations inexactes, fausses, pas vérifiées, pas recoupées, qui circulent maintenant de façon exponentielle grâce aux réseaux sociaux et qui supposent, à mon avis, encore plus qu'avant, une vigilance de la part de ceux qui les consultent, de se méfier de la source. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que moins la presse est développée, plus les rumeurs complotistes peuvent se développer. C'est un risque aujourd'hui, je crois, avec les réseaux sociaux qui ne sont régulés par personne globalement.
Et dans votre éditorial, l'éditorial de ce hors-série, donc Quel Monde en 2020, vous attirez notre attention sur le fait que les peuples auraient intérêt parfois à oublier, à perdre un peu leur mémoire.
En l'occurrence, je pense à deux pays précis, la France et l'Allemagne, dans le contexte européen. En gros, on a en ce moment une nouvelle commission européenne qui vient de se mettre en place, dirigée par une Allemande, et c'est très bien, Ursula von der Leyen, qui n'est pas une spécialiste des questions européennes, qui vient plutôt des questions de défense à l'origine. En tout cas, c'est le poste qu'elle occupait avant ça, et qui a dit qu'elle voulait faire une commission géopolitique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, jusque-là, l'Union européenne était une puissance assez, je dirais pas passive, mais très pacifique, disant il faut qu'on trouve des négociations, etc., etc. Avec un monde où on a un Trump de plus en plus puissant, une Chine de plus en plus puissante, à la fois sur le plan économique et militaire, un retour de la Russie avec toute sa force, il faut que l'Europe, d'une façon ou d'une autre, trouve aussi sa façon d'affirmer sa puissance de façon un peu moins passive et un peu plus musclée, éventuellement, parfois. Mais ça suppose que le couple franco-allemand fonctionne. Et ça suppose, c'est ce que je dis en tout cas en éditorial, c'est mon opinion, que la France oublie le moment où elle était une grande puissance et où elle voulait faire les choses elle-même.
La France doit en finir avec la nostalgie de sa puissance passée, écrivez-vous.
Oui, et parce que la France fut grande, et je pense que nos auditeurs africains le comprendront très bien, surtout à l'époque coloniale, c'est là que les tâches de l'Empire français sur la carte étaient les plus grandes. Aujourd'hui, la France est un recoin du monde. Certes, un recoin qui a de beaux restes, qui a un PIB, une croissance économique, enfin en tout cas un poids économique assez important, encore des moyens d'action militaire. Mais il faut, je pense, que pour qu'elle s'entende avec l'Allemagne, elle oublie qu'elle a été grande et donc que c'était elle qui dirigeait. Et de l'autre côté, je crois qu'il faut que l'Allemagne commence à oublier ses crimes passés pour pouvoir parler de l'usage de la force, par exemple.
Elle doit cesser de considérer que la puissance est un thème tabou.
Là aussi, oui, je pense. Et la puissance, ça ne veut pas dire seulement la puissance économique, mais éventuellement aussi la puissance militaire. Dans certains cas, il faut user, hélas, de la puissance militaire, ou en tout cas montrer ses muscles, et que ceux qui sont en face se disent « Ah, il y a des muscles en face ». S'ils ont l'impression qu'on a une puissance un peu molle, évidemment, ça fera le jeu des plus forts de la cour de récré, si je puis dire.
Yann, alors commençons notre voyage au Brésil, notre voyage en 2019, avec le 1er janvier de cette année 2019 qui s'achève. Dans les premières heures de cette année, l'investiture du président Jair Bolsonaro, donc c'est au Brésil, pour un mandat de 4 ans. Écoutons un extrait de son discours prononcé à cette occasion.
L'une de mes priorités est de protéger et renforcer la démocratie brésilienne en travaillant dur pour qu'elle ne soit plus seulement une promesse formelle et distante, mais qu'elle soit une composante substantielle et tangible de la vie politique brésilienne en respect de l'État et de la démocratie. La construction d'une nation plus juste demande une rupture avec des pratiques néfastes pour nous tous qui retardent le progrès. L'irresponsabilité nous a amenés à une crise historique, éthique, morale et économique. Nous commençons aujourd'hui le dur travail qui permettra au Brésil de commencer un nouveau chapitre de son histoire, un chapitre dans lequel le Brésil sera vu comme un pays fort, florissant, confiant et audacieux.
Yann, beaucoup d'auditeurs nous ont écrit pour participer à cette émission, nous dire ce qu'ils avaient marqué cette année. Isiaga pense que c'est la confirmation du populisme qui est marquant cette année. Et Sébastien et Sarah insistent, eux, sur le risque climatique et la haine, la campagne de haine contre Greta Thunberg. On pourra en dire un mot tout à l'heure. Mais le Brésil nous intéresse. D'abord, on a commencé l'année avec lui, si je puis dire. Et dans ce supplément d'Alternatives économiques, Dominique Vidal se pose la question, plus de peur que de mal ?
Oui, parce qu'en fait, je dirais que Bolsonaro, c'est un peu comme son maître Trump. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'effets de manche, beaucoup de discours extrêmement vigoureux, beaucoup de promesses très démagogiques. Et heureusement, dans les deux cas, ils ont affaire, face à eux, à des institutions qui freinent leurs élans. Et notamment, c'est ce que dit Dominique Vidal dans l'article que nous publions dans le numéro hors-série, quand globalement les institutions brésiliennes ont résisté et, aussi surprenant que ça puisse paraître, je note au passage que Bolsonaro est lui-même un ancien militaire, qu'une des institutions qui a le plus résisté et qui garantit aujourd'hui le mieux l'état de droit au Brésil, c'est l'armée. Donc on pensait que Bolsonaro pourrait s'appuyer sur l'armée, et non. L'armée brésilienne, jusqu'à maintenant en tout cas, joue plutôt un rôle de renforcement des institutions, de l'état de droit, donc de contre-feu, si je puis dire, à tout ce qu'on pouvait craindre avec Bolsonaro, dont le discours est un discours globalement d'extrême droite. Et derrière les belles paroles de son discours inaugural, on sait qu'il y avait une volonté d'être extrêmement musclé. Par ailleurs, on a au Brésil, ça c'est la vie politique institutionnelle brésilienne qui est faite ainsi, on a un Parlement qui est extrêmement éclaté. Donc pour pouvoir constituer une majorité de gouvernement, il a besoin de réunir tout un tas de partis. Et globalement, donc, ça affadit, si je puis dire, ses capacités à prendre des mesures extrêmement vigoureuses. Si on était en dictature, Bolsonaro aurait transformé le Brésil. Comme on n'est pas en dictature, mais dans un régime avec tous ses défauts de démocratie électorale, on va dire ça comme ça, il ne peut pas aller aussi loin que ce qu'il voudrait. Donc, il y a des contre-feux et on le voit aussi aux États-Unis. On en parlera peut-être plus tard avec le Congrès.
Le Brésil me fait penser à l'Amazonie. Il y a eu d'importants incendies de forêts cet été en Amazonie. Vous publiez une belle carte qui montre que l'Amazonie concerne plusieurs pays, pas seulement le Brésil, évidemment. C'est une autre image forte de cette année que l'image de ces incendies gigantesques en Amazonie, comme actuellement d'ailleurs en Australie.
Comme en Australie, oui. Alors l'Amazonie, évidemment, c'est beaucoup plus impressionnant peut-être parce qu'on a l'impression, selon l'expression consacrée, que c'est le poumon de la planète, ce qui est une question un peu compliquée, je crois. Je ne suis pas du tout spécialiste des questions d'environnement, mais je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Le fait est que Bolsonaro a favorisé, lui, le défrichage de la forêt. On sait qu'il est assez proche des milieux de ce qu'on appelle l'agro-industrie, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, et qu'il pratique aussi la démagogie. Il faut bien voir qu'une partie du défrichage et des feux qui ont lieu, des feux non pas spontanés, mais des feux allumés, si je puis dire, incendiaires, sont faits par des petits paysans qui veulent défricher. Pourquoi est-ce qu'ils veulent défricher? C'est parce que, globalement, souvent leurs terres ont été spoliées par des grands propriétaires terriens. Donc tout ça, ça montre que cette question environnementale qu'est l'Amazonie, on aurait l'impression que ça doit être réglé sur le plan écologique, etc. En fait, c'est beaucoup un problème de propriété foncière. Et à qui appartient le sol? Et comment est-ce qu'on garantit que le sol est protégé? Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que simplement de faire une conférence internationale.
Il faut aussi mentionner les incendies de forêt en Indonésie. On en a beaucoup moins parlé, mais ils ont été très violents également. Autre pays au cœur de l'actualité cette année, Yann, l'Iran. Nous allons en parler maintenant. D'abord, pour évoquer le 40e anniversaire de la République islamique, c'était le 11 février dernier. Reportage alors de Nicolas Falaise.
Ils affluent par milliers sur l'immense place Azadi, point de ralliement des différents cortèges qui ont parcouru ce matin les rues de Téhéran sous la pluie. L'ambiance est festive, avec distribution de nourriture et de thé. Les uniformes des différentes forces armées iraniennes croisent des enfants maquillés aux couleurs du drapeau iranien. Dans la foule, cette iranienne vêtue de noir qui tenait beaucoup à être là.
Just to be present and show everyone that we are here.
Pour être présente et pour montrer au monde entier que nous sommes là pour soutenir notre révolution. Le secret de notre victoire, ce fut l'unification des musulmans. C'est pour cela que notre révolution a réussi. Nous sommes les ennemis du gouvernement américain, pas du peuple américain. Nous sommes les ennemis du gouvernement israélien, nous sommes les ennemis du groupe État islamique et de tous ceux qui essayent d'affaiblir les musulmans et d'affaiblir les opprimés. Nous ne soutenons pas seulement les musulmans, mais tous les opprimés, où qu'ils se trouvent.
Devant la foule, le président Rouhani prend ensuite la parole pour fustiger ce qu'il qualifie de complot contre son pays.
Fin février 2019, échec de la deuxième rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump à Hanoï, au Vietnam. Ambiance avec notre envoyé spécial Stéphane Lagarde.
Malgré la pluie, les esprits s'échauffent chez les confrères sud-coréens. Il est plus de minuit devant le Melia Hotel de Hanoï, 11 heures après l'échec des négociations du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. La délégation nord-coréenne vient d'improviser une conférence de presse. Poncho, parapluie, se bouscule sur les barrières métalliques. Tout le monde ne peut pas rentrer. À l'intérieur, costume sombre, pins des dirigeants à la boutonnière. Ri Yong-ho, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, accuse Washington d'avoir fait échouer les négociations.
Pendant la réunion, les États-Unis ont insisté pour que nous allions plus loin que le démantèlement du site de Yongbyon. À partir de ce moment, il est devenu clair que les États-Unis refusaient nos propositions Il n'est pas sûr qu'une telle occasion se représente.
La diplomatie nord-coréenne affirme avoir proposé le maintien du gel de tous ses essais contre l'exemption sur 5 régimes de sanctions visant la Corée du Nord. En refusant notre proposition, les États-Unis ratent une opportunité qui ne se présente que tous les 1000 ans, a ajouté Cho Sun-hui, la vice-ministre des Affaires étrangères.
Suite de ce premier volet d'une année d'actualité dans le monde, en l'occurrence, nous sommes en compagnie de notre ami Yann Mas. Il nous faut nous arrêter en Iran, parce qu'il y a une grosse actualité cette année dans ce pays, entre l'accord sur le nucléaire qui a été dénoncé par les Américains, la reprise des essais de la part de l'Iran, enfin des recherches en tout cas, un soulèvement durement réprimé. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais on sait que ça a été durement réprimé. L'Iran au cœur de l'actualité.
Oui, bien sûr, parce que effectivement, l'Iran inspire de la crainte. C'est assez légitime, je dois dire, que on ait un peu peur des intentions de l'Iran, parce qu'il faut se souvenir qu'il avait un programme nucléaire longtemps clandestin, et que c'est quand on l'a découvert qu'on s'est aperçu effectivement qu'il pouvait préparer quelque chose. La question, c'est de savoir ce qu'il prépare. Est-ce qu'il prépare vraiment à terme, parce que le régime a la volonté de fabriquer vraiment une bombe? Ou est-ce que ce qui serait plutôt mon intuition, il va avoir les moyens de le faire rapidement? L'accord sur le nucléaire qui avait été conclu par un certain nombre de pays occidentaux, l'Union européenne, la Russie, etc., prévoyait justement qu'il n'ait pas les capacités de le faire, qu'il soit ralenti dans sa course. En dénonçant l'accord, Donald Trump a donné au régime iranien l'occasion de dire « bah à ce moment-là, si vous ne respectez pas votre part de l'accord, moi non plus, et donc je remets la machine en route ». Pour l'instant, la machine est remise en route assez lentement, mais on peut craindre qu'à terme, ça s'accélère. Puisque le peu que je comprends des affaires nucléaires, c'est que c'est plus compliqué d'enrichir au début à 10, 20, 30%. Une fois que ça s'est fait, arriver à 90%, c'est beaucoup plus rapide. Donc effectivement, ce sont les premières étapes les plus difficiles. Et là, on peut craindre qu'effectivement, petit à petit, l'Iran remonte en puissance alors que l'accord l'avait freiné.
Alors l'actualité de cette année, c'est aussi en Grande-Bretagne le départ, la démission en juin de Theresa May et l'arrivée de Boris Johnson qui a triomphé aux élections législatives il y a quelques semaines, en décembre.
Oui, je crois que... Personnellement, je ne donnais pas très cher de la capacité de Boris Johnson, pardon, à conclure un accord avec l'Union européenne. Il y est arrivé au prix de dispositions assez ambiguës, notamment sur les échanges économiques entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Je pense qu'il a un peu roulé dans la farine les Britanniques, qui ont cru qu'effectivement il y avait quelque chose de très différent de l'accord avec Theresa May, ce qui n'est pas si différent. En revanche, je pense qu'il a bien compris que ce que voulaient les Britanniques maintenant, y compris des gens qui n'étaient pas forcément très chauds pour quitter l'Union européenne, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on en finisse, qu'on fasse cet accord, que les choses soient claires et qu'on arrête. Malheureusement pour eux, ils ont une date de sortie qui est le 31 janvier, mais pas encore le dispositif pour l'après-sortie définitive. Là, on commence une période de transition dans laquelle les Britanniques ne seront plus membres de l'Union européenne au sens où ils ne pourront plus être associés aux décisions, mais il va falloir négocier les conditions pour l'après. Et l'après... Ça peut être fin 2020, mais ça peut être beaucoup plus tard parce que les négociations sur le dispositif et notamment les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume-Uni vont être très très longs. Boris Johnson veut faire ça très vite, ça paraît peu probable.
Suite d'une année d'actualité, Yann, et nous allons partir maintenant pour Hong Kong. En juin, début des grandes manifestations contre un projet de loi d'extradition vers la Chine. Elles se sont amplifiées au fil du temps, malgré le retrait de ce projet. Écoutez par exemple ce reportage de Florence Dechangy, c'était le 21 juillet dernier.
Alors que la nuit est tombée et que les manifestants ont bloqué plusieurs routes sur l'île de Hong Kong, la police a sorti des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule, notamment devant le bureau de liaison de Pékin, le bureau des autorités centrales à Hong Kong. Car les manifestants sont finalement allés plusieurs kilomètres au-delà de la route autorisée par la police. Jusque-là, la police avait pour ainsi dire été invisible et ce nouvel après-midi de marche s'était déroulé dans une ambiance des plus pacifiques. Un grand costaud masqué de noir jusqu'aux lunettes nous explique la signification de l'immense drapeau noir qu'il porte et brandit dans la foule.
D'abord, c'est en continuation de notre code vestimentaire, car nous sommes tous en noir. Ensuite, un drapeau noir, c'est l'opposé d'un drapeau blanc, qui veut dire se rendre. Donc nous, c'est le contraire. On n'a aucune intention de renoncer. Et puis aussi, c'est pour faire le deuil des gens qui ont perdu la vie pendant ce mouvement.
Depuis, la tension est considérablement montée à différents endroits. La plupart des jeunes sur place sont masqués, des barricades sont érigées. Tout indique que les échauffourées vont durer.
Yann, il nous faut aussi parler des rapports compliqués de la Russie avec la démocratie, avec la répression des manifestations contre la mise à l'écart de candidats de l'opposition à des élections locales à Moscou. Le 10 août dernier, il y avait plus de 50 000 personnes dans la capitale. Reportage alors d'Étienne Bouche.
Organisé en plein mois d'août et en dépit d'une météo peu engageante, le rassemblement de ce samedi a pourtant redonné du souffle à l'opposition. Dans la foule, Rouslan brandit un drapeau russe. Il proteste contre l'attitude du pouvoir.
On a d'abord retiré aux gens la possibilité de se présenter aux élections, ce qui revenait à ôter aux électeurs le droit de choisir. Ensuite, quand les gens sont descendus dans la rue pour s'adresser au pouvoir, on les a jetés dans des fourgons de police et on les a frappés. Mais ils ont continué à se mobiliser et on leur a interdit de circuler dans la ville. Moi, je suis né à Moscou et quand je me rends dans le centre-ville pour demander des comptes, à chaque fois, je dois fuir les matraques. Il me semble que ce n'est pas normal.
Lors des précédentes mobilisations, les arrestations ont été violentes et massives, ce qui a révolté Mikhaïl, étudiant de 21 ans.
On espère que le pouvoir nous entendra et prendra en considération les revendications de l'opposition. Il s'agirait, au minimum, d'abandonner toutes ces poursuites judiciaires absurdes. Des étudiants qui se retrouvent menacés de 3 voire 5 ans d'emprisonnement alors qu'ils n'ont absolument rien fait.
Si ses principaux meneurs purgent actuellement de courtes peines de prison, le mouvement s'est trouvé ces derniers jours deux soutiens de poids, le rappeur Oxymiron et le youtubeur Yuri Doudj, deux personnalités à l'audience colossale sur Internet.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, et singulièrement le premier volet d'une année d'actualité en compagnie de notre ami journaliste Alternatives économiques, Yann Mince, qui nous propose un hors-série qui s'intitule « Quel monde en 2020 ?». Il est au cœur de cette émission, ce supplément, et d'ailleurs Yann également. Hong Kong a été retenu par beaucoup de nos auditeurs, Yann, et c'est le cas notamment d'Emmanuel qui nous écoute à Paris. Un mot de commentaire sur l'évolution de ce mouvement qui est devenu très violent, hein. Et d'ailleurs qui a continué et qui continue en ce moment.
Oui, je pense que Pékin, enfin les gouvernants de Hong Kong d'abord, Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, et ses parrains, si je puis dire, à Pékin, le régime chinois, je pense, n'ont pas vu venir. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'était une histoire de loi d'extradition, c'était une initiative hongkongaise, pas spécialement des dirigeants chinois, mais évidemment, ils soutiennent l'exécutif de Hong Kong. Ils n'ont pas vu venir et ça n'a fait que croître et embellir, parce qu'à partir du moment où les manifestations contre cette loi d'extradition vers la Chine continentale ont été réprimées, les manifestants ont fini par réclamer tout à fait autre chose que l'expression de la loi, la libération des gens, des enquêtes sur les violences policières et, ce qui est nettement pire, si je puis dire, vu de Pékin, un régime plus démocratique à Hong Kong, en tout cas une désignation de gouvernants plus démocratique. Et le mouvement s'est nourri lui-même, si je puis dire, par la bêtise des dirigeants de Hong Kong qui auraient dû rétro-pédaler beaucoup plus vite, et notamment Carrie Lam. Et surtout, il y a eu cet événement fin novembre où il y a eu des élections locales qui habituellement sont des élections qui n'intéressent pas grand monde, parce que c'est pour des délégués locaux qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais que l'opposition a décidé d'investir et elle a gagné ces élections. Ce qui veut dire que le calcul, je pense, de Carrie Lam et du gouvernement de Pékin, qui est de dire tous les gens qui ne sont pas dans la rue, la majorité silencieuse, réprouvent toute cette agitation, cette contestation et les violences qui vont avec. En fait, non. Il y a une forte participation à ces élections, ce qui veut dire qu'une bonne partie des gens qui ne manifestaient pas étaient quand même d'accord avec les manifestants. Et ça, c'est un problème pour Pékin. Pékin ne peut pas, à mon sens, réprimer Hong Kong dans le sang pour des raisons économiques. Hong Kong, c'est la place financière, c'est la troisième place financière du monde. C'est par là que passent les échanges économiques de la Chine, c'est par là que passent les investissements. Et c'est là aussi, accessoirement, que les dirigeants chinois mettent leurs économies personnelles à l'abri.
Donc, ce qui n'est pas rien.
Il ne faut pas toucher au grisby, on ne touche pas à la banque. Et donc, rentrer à Hong Kong à feu et à sang, ce serait mettre en danger l'équilibre économique de la Chine. Du coup, effectivement, on est dans cet entre-deux. Peut-être qu'un jour, Carrie Lam va finir par payer le prix et que Pékin va dire, bon, on va lui faire porter la responsabilité, on va la chasser, on mettra quelqu'un d'autre. Ça serait la seule sortie à ce stade qui me paraîtrait possible. Encore faut-il que les manifestants s'en suffisent, c'est pas du tout certain.
Thank you.
année d'actualité.
Parlons maintenant de grandes images sonores, Yann Mince, de l'actualité en France dans cette première partie de l'année 2019, où l'on reparle des Gilets jaunes, un mouvement commencé fin 2018, on en avait déjà parlé l'année dernière. En avril, Emmanuel Macron annonce dans une conférence de presse plusieurs mesures destinées à répondre à la crise, y compris en matière institutionnelle.
Ce que je souhaite, c'est que dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Je crois que c'est une bonne voie qui respecte la démocratie représentative, mais qui permet à 1 million de citoyens qui se rassemblent de pousser le Parlement à discuter d'un texte, ou bien d'aller au référendum. Je souhaite ensuite qu'au niveau local, on puisse renforcer le droit de pétition. Au niveau local, en définissant une forme de droit d'interpellation des élus. Au-delà d'un certain seuil qui sera à définir, les citoyens doivent pouvoir obtenir d'inscrire un sujet à l'ordre du jour d'une assemblée locale. Là aussi, je pense que c'est important, et ça permet d'articuler la place légitime des élus, mais ce que les citoyens peuvent vouloir amener dans le débat public.
Autre image en France qui restera sans doute longtemps dans les mémoires, c'est celle de Notre-Dame de Paris en feu. C'était le 15 avril dernier. Une intense émotion a parcouru Paris et toute la France d'ailleurs. Reportage dans la capitale signé Stéphane Genest.
Près d'un millier de personnes se sont retrouvées place Saint-Michel à Paris. La cathédrale est à une centaine de mètres. Elle attire tous les regards. Les badauds, habitants du quartier et autres touristes sont debout, l'air hagard. Certaines personnes entonnent même des chants à la Vierge Marie. Pour cette Brésilienne en vacances à Paris, il était important de venir.
J'étais là, hier, dimanche, à 8h30.
Donc c'est encore plus fort pour vous, plus émouvant.
C'est plus fort, c'est, j'aime ces églises-là.
Une autre femme est un peu en retrait, elle ne bouge pas depuis plusieurs minutes. Elle consomme frénétiquement sa cigarette, les yeux rivés sur Notre-Dame.
Je suis parisienne et que c'est quand même c'est Notre-Dame, c'est la grande dame. Alors ça fait, je suis traversée tout Paris pour venir la voir. J'ai peur qu'elle brûle toute la nuit. Je me suis dit j'ai envie de venir la voir. C'est un peu notre grande dame à tous à Paris.
D'autres ont décidé de venir en sortant du travail. C'est le cas de ce jeune homme.
C'est quand même un monument magnifique. C'est vraiment triste ce qui se passe. On avait un peu peur en fait que ce soit la dernière fois qu'on la voit. C'est aussi pour ça.
Alors que la nuit est tombée, certains sont restés aux abords de Notre-Dame de Paris et à veiller en silence ou en chantant.
Yann, l'incendie de Notre-Dame va sans doute être l'événement numéro un chez beaucoup de Français. Enfin, l'image, ces images très spectaculaires vont rester.
Oui, je pense que c'est un événement, en tout cas sur le plan affectif, qui est extrêmement fort. Moi, je suis parisien depuis une quarantaine d'années. J'ai pas grandi ici, j'ai pas grandi ici, mais je suis là depuis une quarantaine d'années. Effectivement, passer aujourd'hui près de Notre-Dame en regardant l'état dans lequel elle est, c'est qu'on soit croyant ou pas, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est un monument très fort, très puissant, qui a une identité extrêmement forte, qui en plus en plein cœur de Paris, sur une île, on a l'impression d'un bateau au milieu de la Seine. Et le voir aussi abîmé, moi j'ai eu très peur, très honnêtement, que toute la cathédrale s'écroule. J'y connais rien en incendie, donc j'ai peut-être fantasmé quelque chose qui n'était pas un vrai risque, mais je pense que beaucoup de gens ont craint que ce soit pas seulement la flèche, mais les tours qui s'effondrent et qu'il n'y ait plus rien de Notre-Dame. Donc je ne dis pas qu'on a été soulagé quand ça s'est révélé faux, mais quand même, il y a cette idée qu'on peut refaire Notre-Dame. Et c'est intéressant de voir que le débat a recommencé tout de suite, savoir s'il fallait le faire à l'identique ou pas à l'identique. Je crois que ce sera jamais... Avec ou sans flèche, je crois que ce sera jamais à l'identique. C'est bien que Notre-Dame, comme beaucoup... souvent, quand je vais en voyage à l'étranger, je visite des églises ou des monuments religieux, on s'aperçoit qu'ils ont été modifiés au cours des siècles, 3, 4, 5, 6 fois, et que ce qu'on voit, c'est une espèce de patchwork. Et je crois qu'il en est déjà la même, comme ça pour Notre-Dame, et ça sera pareil dans le siècle qui vient, quelle que soit la méthode de réfection qui sera choisie.
Le président Macron et les Gilets jaunes vous inspirent un commentaire ?
Ça m'inspire un commentaire. C'est toujours cette inquiétude sur la démocratie en France. C'est-à-dire qu'on a un système qui a été imaginé par le général de Gaulle en 58 pour réagir aux excès précédents, ceux de la 4e République, qui était un régime très parlementaire avec une forte instabilité gouvernementale, sinon ministérielle, parce qu'en fait, c'était un peu toujours les mêmes hommes qui étaient au même poste. Et du coup, on a créé un système qui est une espèce de monarchie républicaine qui devient de plus insupportable au fil du temps, notamment parce que je crois que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, le niveau a monté. Beaucoup de gens ont aujourd'hui l'impression qu'ils peuvent plus qu'avant, qu'ils ont les moyens intellectuels de contester ce que dit le pouvoir. Et le pouvoir en est resté à un exercice assez solitaire, en tout cas du côté de l'exécutif. Et on n'a toujours pas une démocratie, une vraie démocratie parlementaire, c'est sûr que non. Le Parlement est un Parlement aux ordres, globalement, en France. Et là, on essaie effectivement de trouver des voies de démocratie non pas représentative, mais délibérative. Et je veux dire que plutôt que la révision constitutionnelle qui me semble bloquée parce que le Sénat n'en veut pas, semble-t-il, je pense que c'est du côté de la Convention citoyenne qui a été créée pour parler d'éducation et environnement. Là, il se passe vraiment quelque chose. Ce ne sera pas un exercice parfait du premier coup, mais ça veut dire qu'en France, pour la première fois...
Là, ce sont des citoyens tirés au sort
qui délibèrent depuis plusieurs mois et qui vont faire des propositions en matière environnementale. Et je crois que ce sera en janvier, je crois, la fin des travaux, par là, en tout cas une partie des travaux préliminaires. Je crois qu'il se passe quelque chose là du côté du délibératif à défaut du représentatif.
Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité devenue une année d'actualité, Yann Mince, première partie aujourd'hui, seconde partie samedi prochain, et nous allons nous intéresser à l'Afrique maintenant et partir pour la RDC avec le 24 janvier 2019, au début de l'année, la prestation de serment du nouveau président Félix Tshisekedi, Anne Cantoner.
Un Congo réconcilié, tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Voilà le souhait du nouveau président pour son pays. Dans son discours d'investiture hier, Félix Tshisekedi a rendu hommage à son prédécesseur Joseph Kabila qui a permis, a-t-il dit, l'alternance démocratique et pacifique.
Nous avons été votre fervent adversaire politique. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants.
Le nouveau président congolais a également rendu hommage à son père, Étienne Tshisekedi, qui avait fondé le parti UDPS, en saluant sa ténacité et son dévouement. Félix Tshisekedi a ensuite tendu la main à ses rivaux lors de l'élection du 30 décembre, se disant prêt à associer Emmanuel Ramazani Shadary et Martin Fayoulou à la gouvernance du pays. Il a même tenu à souligner la contribution de l'Église catholique au processus électoral, même si les évêques ont remis en cause la régularité des résultats. Le chef de l'État a ensuite promis d'œuvrer à la libération des prisonniers politiques en RDC.
Le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques en vue de leur prochaine libération.
Enfin, Félix Tshisekedi a également indiqué que son gouvernement lancerait bientôt une campagne de sensibilisation des agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de la population.
Yann, dans votre supplément intitulé « Quel monde en 2020 ?» hors série d'alternatives économiques, il y a deux pages passionnantes sur la RDC intitulées « Deux présidents pour un pays » et c'est Thierry Vircoulon, spécialiste, qui a écrit ce papier.
Oui, qui montre bien toute l'ambiguïté de la situation en RDC. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement un scrutin mal organisé avec beaucoup d'irrégularités et qui a donné du coup un président élu mais qui est un président contesté. Et quand le reportage disait que l'Église catholique a mis en cause des fraudes, il y a évidemment l'idée derrière que c'est pas vraiment Tshisekedi qui avait été élu, mais Martin Fayoulou. Et donc il y a ce président avec une légitimité faible et en face un ancien président qui finalement a renoncé à se représenter.
Joseph Kabila,
qui en fait a gardé une bonne partie des leviers du pouvoir, des leviers réels du pouvoir, notamment sa proximité avec les services de sécurité, notamment son poids dans les milieux économiques, et qui contrôle la majorité de l'Assemblée, en tout cas qui est le parti dominant à l'Assemblée. Donc une espèce de cohabitation bizarre entre quelqu'un avec une légitimité faible, mais qui a le pouvoir en principe, et quelqu'un qui n'a pas le pouvoir en principe, mais qui a les vrais leviers du pouvoir. Tout ça, je suis un peu sceptique sur ce que ça va donner. Il faudra que les citoyens congolais soient très vigilants. Et je dois dire que la façon dont l'Église catholique, notamment, a organisé la surveillance du scrutin montre qu'il y a dans la société congolaise des gens extrêmement motivés, organisés, systématiques, rigoureux pour faire ce travail de surveillance du pouvoir. Et je crois qu'il est de plus en plus nécessaire.
Il faut ajouter aussi, en ce qui concerne la RDC, la Ebola qui est toujours là et qui est considérée, il faut le rappeler, comme une urgence sanitaire mondiale. Il faut le noter. La Libye, il faut s'y arrêter un court instant. C'est un pays que vous suivez avec attention. Il y a toujours les affrontements entre les troupes du maréchal Haftar et celles de Fayez El-Sarraj et la menace, enfin en tout cas l'annonce par la Turquie de l'envoi en janvier prochain, peut-être au début de l'année prochaine, de soldats turcs en Libye.
Il commence à y avoir un monde fou en Libye et c'est très inquiétant. Le maréchal Khalifa Haftar est soutenu depuis longtemps par les Émirats Arabes Unis et par l'Égypte. Et visiblement, il va avoir aujourd'hui de plus en plus recours, plus encore que par le passé, à des mercenaires soudanais. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, effectivement, on a le gouvernement reconnu par les Nations Unies de Fayez El-Sarraj qui s'apprêterait à recevoir, outre le soutien qu'il avait lointain du Qatar et de la Turquie, maintenant le soutien direct. Et la Russie, par là-dessus, vient se ranger, semble-t-il, par mercenaires interposés, puisque maintenant, il y a des sociétés militaires privées, ouais. Ce qui est le nom élégant pour dire des mercenaires, russes qui sont visiblement du côté d'Haftar. Donc on a beaucoup de monde très actif sur le terrain en Syrie, peut-être en Libye, pardon, de plus en plus actif. Et c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que ça rend la réconciliation entre les factions libyennes encore plus compliquée. Clairement, Haftar pensait pouvoir prendre Tripoli, il n'y est pas arrivé, il est coincé dans son ascension, il va chercher des troupes d'un côté, Fayez El-Sarraj va en chercher de l'autre. Ça commence à ressembler à un conflit qui n'est plus du tout un conflit libyen, ce qu'il était à peu près jusque-là.
Alors parlons de l'Algérie maintenant, Yann Mince, au cœur de l'actualité en 2019, au tout début avril, Abdelaziz Bouteflika démissionne après des manifestations. Les Algériens sont satisfaits mais prudents. Reportage par exemple de Léa Lisa Vestaroff, on l'écoute.
Bon, je pense que c'est une victoire pour l'Algérie, pour le peuple algérien. Je pense que pour une fois l'armée a su faire les bons choix, il a fait le bon choix. C'est une deuxième indépendance pour l'Algérie.
Voilà, c'est un bonheur, c'est un pas de géant par rapport à nos revendications. D'abord, le départ du clan Bouteflika, qui est un clan mafieux. Il a pris en otage toute l'Algérie. Et là, c'est un pas de géant que nous avons réalisé. C'est le départ de Bouteflika.
Non, il a l'émotion de ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais ce n'est pas encore réalisé. Ce que l'on veut, nous, en tant que peuple, nos revendications sont claires. Et j'espère que les militaires ou bien, comprennent ce que le peuple veut de son Algérie. La réalisation d'une Algérie démocratique où le peuple est libre.
Alors les événements d'Algérie cette année ont retenu l'attention de beaucoup de nos auditeurs qui nous ont écrit. C'est le cas de par exemple de Peter Mango qui considère que c'est l'événement de l'année, cette révolte algérienne. C'est le cas aussi de Roger en France qui s'intéresse lui en plus à la révolte des peuples sur la planète dont on reparlera la semaine prochaine. Il y a eu beaucoup de choses cette année en Algérie. Le départ de Bouteflika, des élections, l'arrivée d'un nouveau président récemment, il y a quelques semaines, d'Abdelmadjid Tebboune et la mort il y a quelques jours d'Ahmed Gaïd Salah, l'homme fort de l'armée, le chef d'état-major.
Oui, et qui était, pour reprendre l'expression de la dame qui était interviewée dans le reportage, qui faisait partie du clan Bouteflika. Il a été longtemps l'un des principaux soutiens de Bouteflika. Il s'en est écarté, si je puis dire, au moment où effectivement la rue a commencé à s'agiter et où Bouteflika était contraint à la démission. Et surtout, il a organisé ensuite les procès d'un certain nombre de gens qui étaient de l'entourage très clair de Bouteflika. Mais dans une certaine mesure, l'organisation des procès, c'est aussi une façon de prendre ses distances et dire « moi, je n'en étais pas », alors que clairement, il était assez proche du Bouteflika. Au-delà du cas de Salah, donc qui vient de mourir, général Gaïd Salah, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que l'armée pense de son rôle en Algérie. Depuis l'indépendance, depuis 62, et depuis la mainmise sur le pouvoir de l'armée des frontières, c'est-à-dire des gens qui étaient en exil pendant la guerre d'indépendance et qui sont revenus, on a une espèce d'armée qui se considère comme le tuteur de la nation. Et donc, quand ce monsieur disait « il faut que l'armée comprenne qu'on veut la démocratie », je ne sais pas si l'armée a envie de comprendre quelque chose d'autre que son rôle de tuteur et son rôle de tuteur ad vitam. Alors, on a aujourd'hui une relève de génération. Pendant longtemps, on a eu à la tête de l'armée algérienne des gens qui avaient participé eux-mêmes à la guerre d'indépendance, oui. Qui étaient des moudjahidines, qui étaient des felagas, etc. Aujourd'hui, les militaires qui sont là ne sont avec le temps, l'âge venant, ne sont plus des anciens combattants algériens. Donc leur légitimité, à mon sens, risque de baisser. Mais est-ce que l'armée, pour autant, veut renoncer à son rôle de tuteur suprême au-dessus du peuple? Je n'en suis pas encore convaincu. On va probablement le voir dans les mois qui viennent.
Alors Yann, le Soudan a également été au cœur de l'actualité cette année dans la série La Révolte des Peuples, avec de grandes manifestations contre le régime d'Omar el-Béchir. Le 11 avril, Omar el-Béchir est destitué, mais c'est un conseil militaire qui prend le pouvoir, d'où la déception alors de beaucoup de manifestants. Alexandra Bonjon.
Devant le siège de l'armée, c'est la déception, la colère parmi les manifestants qui, pour certains, campent sur cette place depuis samedi dernier. C'est le cas de cet homme qui n'a pas souhaité être identifié.
Les gens sont en colère et vraiment déçus. Ils n'ont fait que changer un militaire pour un autre, une armée pour une autre. Ce n'est pas ça la démocratie. Nous allons rester ici le jour, la nuit et tous les jours qui viennent.
Le sentiment est général parmi les manifestants qui espéraient pouvoir ouvrir des discussions avec les militaires en vue d'un gouvernement de transition qui inclurait des civils, explique cet autre manifestant.
Tout le monde dit que ce n'est pas ce que nous souhaitions. Nous ne voulions pas que l'armée prenne le contrôle total de cette période de transition de 2 ans. On ne veut pas de ces vieilles figures de l'armée. Se débarrasser du président n'est pas suffisant. Les gens disent qu'ils vont continuer à manifester jusqu'à ce qu'on écoute nos revendications.
Tous ont promis de rester mobilisés devant le quartier général de l'armée malgré l'instauration d'un couvre-feu.
Alors pour Kevin qui nous écoute à Kinshasa, les émeutes xénophobes en Afrique du Sud constituent un événement très important de 2019 et il ne faut pas l'oublier non plus. Alors le Soudan, d'évidence, est un titre important de l'actualité de 2019.
Oui, d'ailleurs, nous y avons consacré dans le numéro hors série un article de Raphaël Chevrillon-Guibert.
Intitulé « Le vers la transition démocratique ».
Oui, avec un point d'interrogation, parce qu'effectivement, la question, c'est de savoir si ce rapport de force qui s'est établi entre des militaires, et quand il dit des militaires, c'est aussi des miliciens, parce que l'un des principaux responsables du pouvoir côté militaire, c'est Emeti, c'est son surnom soudanais, qui est le chef de ce qui était autrefois appelé les milices Janjaweed, qui sont des gens qui ont commis des horreurs au Darfour, mais vraiment des horreurs. Donc c'est un chef de milice et quelques militaires qui sont au pouvoir, associés à des civils. Et la tâche du Premier ministre, Hamdok, qui a fini par être nommé à la tête d'un gouvernement technocratique, va être assez compliquée, parce que dans ce gouvernement, il y a quelques places réservées aux militaires, et puis il y a tous les civils. Comment va s'établir le rapport de force? Est-ce que les militaires qui aujourd'hui dirigent le Conseil militaire de transition pendant la première période de transition vont accepter vraiment pour la deuxième de céder le pouvoir et la réalité du pouvoir à des civils? Ça va être un enjeu extrêmement important. Les Soudanais ont fait un très gros travail en se débarrassant du dictateur. Maintenant, la question, c'est le rapport de force entre les civils et les militaires, donc entre la rue et une partie importante de l'armée. Et je dirais que comme au Congo, j'ai dit tout à l'heure, je pense que la vigilance des citoyens et la vigilance constante des citoyens sera cruciale.
Alors vous publiez dans ce hors-série Quel monde en 2020 une carte, une double page avec une belle carte qui parle bien, qui parle fort, c'est le cas souvent des cartes, sur les investissements chinois en Afrique. Et ils sont parlants, hein.
Oui, ils sont
parlants. Et dans tous les pays.
Et dans beaucoup de pays, oui. Il faut bien voir que l'affection, si je puis dire, ou l'intérêt plutôt que l'affection, l'intérêt de la Chine pour l'Afrique n'est pas désintéressé, pas plus d'ailleurs que l'intérêt des Africains pour la Chine est complètement désintéressé. On est là dans les affaires géopolitiques, dans les affaires souvent économiques. Et dans le cas de la Chine, c'est clair qu'elle voit l'Afrique comme un endroit où il y a des matières premières dont elle a besoin pour sa croissance. Et aussi, et j'insiste sur ce sujet-là, des ports dont elle a besoin pour pouvoir acheminer ses matières premières en toute sécurité jusqu'à son territoire et pour pouvoir acheminer ses exportations. Ce grand projet chinois de la route de la soie, l'Afrique en fait partie. Il s'agit pour la Chine de garantir ses approvisionnements, ses exportations. La Chine, c'est très loin de l'Europe. L'Europe est un des principaux marchés qui intéresse la Chine. L'Afrique, oui, mais secondairement par rapport à l'Europe. En revanche, l'Afrique l'intéresse beaucoup pour la partie approvisionnement. Donc tout ça suppose d'avoir en Afrique des investissements, d'avoir des places fortes, d'avoir des accords avec des gouvernements. Et là, la démocratie ne compte absolument pas. On est vraiment dans la relation d'affaires. Elle compte pas beaucoup pour les pays occidentaux, mais je dirais qu'elle compte encore moins pour la Chine. Avec le risque d'avoir un endettement africain très fort vis-à-vis de la Chine. C'est très bien de se débarrasser des anciens maîtres coloniaux. C'est moins terrible de retomber dans l'éventuelle dépendance vis-à-vis du gouvernement chinois.
D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait un début ou l'émergence d'un mouvement anti-chinois en Afrique.
Il y a inévitablement une contestation. On l'a vu déjà il y a quelques années. Il y a eu des révoltes, je crois que c'était en Zambie, contre les conditions de travail. On a vu aussi des révoltes parce que des petits commerçants africains se sont vus tout d'un coup concurrencés par des petits commerçants chinois qui s'implantaient. On voit ça dans beaucoup de pays du monde, pratiquement partout, dès qu'arrivent de façon un peu significative sur le plan des nombres, des gens qui viennent de l'étranger. La question, c'est effectivement de savoir si les Africains ont les moyens d'établir une relation, non pas d'égal à égal, mais en tout cas de partenariat et pas de servitude vis-à-vis d'un nouveau maître qui serait la Chine et qui viendrait simplement se substituer à ce qui était les anciens maîtres coloniaux ou la puissance américaine, même si les États-Unis sont toujours intéressés à l'Afrique de relativement loin. La Chine a un intérêt, c'est un intérêt, il faut que les Africains arrivent à y trouver aussi leur intérêt et ne soient pas trop dépendants. Leur force maintenant, c'est qu'effectivement, ils peuvent jouer en disant à la Chine, si vous m'embêtez, j'ai des gens qui s'intéressent à moi en France, en Grande-Bretagne, ailleurs. Et puis, il y a aussi l'Inde, il y a aussi la Turquie. Il n'y a pas que la Chine dans les grands pays émergents qui s'intéressent à l'Afrique.
C'est ce qu'il faut souligner. On parle souvent du sentiment anti-français. On en parlera la semaine prochaine quand on va parler de la crise et de la guerre au Sahel, la guerre plutôt. On parle souvent du sentiment anti-français. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une nouvelle génération d'Africains, et là, je généralise à dessein dans tous les pays d'Afrique, ne veut plus du tout d'ingérence étrangère. Elle veut prendre, en quelque sorte, son destin en main, non ?
Oui, avec une ambiguïté quand même. C'est-à-dire que, pour une partie de ce que je perçois, en tout cas, d'un certain nombre de jeunes Africains, je pense effectivement, il ne faut pas généraliser, mais un certain nombre de jeunes Africains sont assez virulents par rapport au fait qu'il faut se débarrasser de la tutelle coloniale et néocoloniale. Très bien. La question, c'est de savoir ensuite si on veut se débarrasser aussi de l'aide qui va avec. Il faut savoir que l'aide française, l'aide publique au développement française, c'est relativement important, que les investissements de l'Agence française de développement sont également importants et que l'investissement militaire de la France en Afrique, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est aussi relativement important. Est-ce que les États africains ont envie de se retrouver privés de ces ressources-là ? Ce serait une vraie preuve de souveraineté que de dire « partez avec vos militaires et ne donnez plus d'argent ». Je ne suis pas sûr que tous les pays africains en aient vraiment envie et que toutes les sociétés des différents pays africains se rendent compte que ça voudrait dire très concrètement. Aujourd'hui, notamment au Sahel, si tous les militaires français partaient et si l'aide publique au développement ne venait plus et si l'Agence française de développement, mais aussi allemande, mais aussi britannique, n'apportait plus d'aide à des projets d'infrastructures, par exemple. Ce serait probablement beaucoup plus compliqué. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au franc CFA, la souveraineté, c'est très bien, mais ça amène des risques et des responsabilités, éventuellement des souffrances dans un certain nombre de cas.
Merci Yann Mince, on se retrouve samedi prochain pour le second volet d'une année d'actualité. Nous aurons sous les yeux, en tout cas j'aurai sous les yeux, mais vous l'aurez dans la tête, le hors-série que vous venez de publier avec Alternatives économiques intitulé « Quel monde en 2020 ? Tous les points chauds de la planète, les analyses des meilleurs spécialistes, les grands enjeux mondiaux », on le trouve dans tous les kiosques de France et de Navarre.
Dans tous les kiosques de France et de Navarre.
Une année d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Arvansky. Merci à la Sonothèque de RFI et plus particulièrement à Eugénie Ducret et à Laurence Sarniguet. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées, vous savez, celui qui interroge ceux qui pensent le monde. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.